Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord.
Bien, bah écoutez, c'est l'heure. Nous allons commencer. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Nous procédons tout d'abord à la nomination d'un ou d'une secrétaire de séance. Je propose Madame Marlène Thibault. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous fais état des procurations que j'ai reçues. Hervé Auriac a donné procuration à Lionel Muret. Sylvette Gilles a donné procuration à Christine Winkelmann. René Sauvera a donné procuration à Michel Payalonga. Et Jean-Paul Montagnier a donné procuration à Georges Point. Je vous fais état également des remerciements que j'ai reçus. Donc nous avons les remerciements de M. René Fussier, de ses enfants et petits-enfants, qui nous remercient donc bien sincèrement pour leur avoir témoigné notre sympathie lors du décès de Daniel Fussier, né Lagarde. Vous avez reçu le procès-verbal du dernier conseil. Est-ce qu'il appelle de votre part des observations ? Dans ce cas, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous demande aussi l'autorisation d'ajouter un dossier complémentaire numéro 1. Communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence, service commun d'instruction des autorisations du droit des sols. Donc, qui s'oppose à cet ajout ? Personne, merci. Donc, bah, écoutez, nous passons à ce dossier complémentaire numéro 1 immédiatement, dont le rapporteur est Christine Winkelmann.
Par délibération 103 du 25 septembre 2014, le Conseil communautaire de la communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence a approuvé la modification de ses statuts pour y inclure la création d'un service commun d'instruction des autorisations du droit des sols. Et par la délibération 2015-01 du 29 janvier 2015, le Conseil communautaire a approuvé la création du service commun d'instruction des autorisations du droit des sols. Par délibération 2014 délib 036 du 30 mars 2015, le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à signer la convention liant la mairie, autorité compétente et la communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence pour l'instruction des autorisations du droit des sols ainsi que leur suivi. Cette convention prenant fin le 31 décembre 2016, il convient d'en établir une nouvelle. La nouvelle convention reprend les termes de celle de 2015. La commune garde à sa charge l'instruction des déclarations préalables et des certificats d'urbanisme d'information. Conformément à la déclaration 2016 délib 014 du 21 janvier 2016, l'agent mis à disposition de la commune de Camaret-sur-Aigle auprès du service commun de la CCOP, service commun de la CCOP, le reste à hauteur de 44,44% de son temps de travail, soit 16 heures par semaine. La CCOP prend à sa charge l'intégralité des frais de fonctionnement du service mutualisé, à l'exception des actions précontentieux et contentieux dans lesquelles la responsabilité du service instructeur n'est pas engagée. La nouvelle convention est prévue pour une durée de 4 années et prendra fin au 31 décembre 2020. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L5211-4-2 relatif aux services communs non liés à une compétence transférée. Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L422-1, L422-8 et R423-48, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63. Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention entre la commune de Camaret-sur-Aigle et le service instructeur commun de la communauté des communes Aigle-Ouvèze en Provence, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions ?
À la limite, comme vous avez eu le dossier au dernier moment, on peut y revenir aussi en fin de séance, voire à la séance prochaine, si vous avez des questions.
Non, excusez-moi, c'est simplement la continuité de l'existence.
Absolument. Oui, madame Thibault, nous avons changé les micros, donc le fonctionnement est un petit peu différent.
Merci.
Vous n'entendez pas ?
Très mal.
D'accord. Et là, c'est mieux ? J'ai pris 20 ans d'âge. On va peut-être essayer de régler ça, non ? Bon, en tout cas, concernant ce dossier complémentaire numéro 1, donc je peux mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors maintenant, le dossier numéro 1. Décision de principe autorisant le maire à engager des dépenses imputables aux articles 6232 et 6257 de la comptabilité communale. Vu le décret 88-074 du 21 janvier 1988 portant établissement de la liste des pièces justificatives liées à l'ordonnancement des dépenses locales, vu le décret 83-16 du 3 janvier 1983, vu les exigences des chambres régionales des comptes, vu les différentes dépenses liées aux cadeaux honorifiques offerts aux agents de la commune ou aux personnalités impliquées dans la vie communale, dans les circonstances suivantes, départ en retraite ou événement d'importance lié à la carrière professionnelle, médaille du travail, mutation, événements familiaux d'importance tels que naissance, mariage, médaille de la famille française, couronne ou gerbe mortuaire honorant une personne décédée ayant œuvré pour la commune, récompenses liées aux activités sportives, socio-culturelles de la vie associative locale, cadeaux délivrés à l'occasion des cérémonies de fin d'année. Vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à engager des dépenses imputables aux articles 6232 et 6257 de la comptabilité communale, conformément à la demande de Monsieur le trésorier principal et dans la limite des crédits prévus par le conseil municipal, notamment pour donc les dépenses que j'ai évoquées plus haut et que je vais me dispenser peut-être de vous répéter. Donc voilà, il s'agit d'une simple régularisation à la demande du trésor public. Y a-t-il des questions ? Donc, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 2. Admission en non-valeur des créances irrécouvrables. Le décret numéro 98-1239 du 29 décembre 1998 indique que les décisions prononçant une admission en non-valeur des créances irrécouvrables sont prises sur avis conforme de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale par le Centre des finances publiques. La trésorerie d'Orange sollicite l'admission en non-valeur des dettes suivantes. Alors là, vous avez une assez longue liste de noms. Peut-être que je ne vais pas forcément vous la lire. Vous l'avez sous les yeux. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, vu le décret numéro 98-1239 du 29 décembre 1998 indiquant notamment que les décisions prononçant l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables sont prises sur avis conforme de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale par le Centre des finances publiques, vu la demande d'admission en valeur émise par la trésorerie d'Orange pour un montant de 1 146,43 €, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à l'admission en valeur des créances irrécouvrables relatives au titre de recette mentionné ci-dessus pour un montant global de 1 146,43 €. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6541. Du budget principal 2016. Y a-t-il des questions ? Non. Alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 3. Camaret fête le vin le 19 novembre 2016, tarif du repas. La commune de Camaret-sur-Aigle souhaite organiser une soirée dansante, Camaret fête le vin, le samedi 19 novembre 2016. Cette manifestation sera organisée en partenariat avec l'Association des jeunes agriculteurs de Vaucluse et l'Union des commerçants, artisans et viticulteurs de Camaret-sur-Aigle. Dans cette perspective, il est proposé d'organiser un repas avec participation financière des participants. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 avril 2003 portant création d'une régie de recettes et d'avances fêtes et animations, considérant qu'il est nécessaire de définir les tarifs de participation au repas organisés par la municipalité dans le cadre de cette manifestation, il est demandé au Conseil municipal d'approuver les tarifs de participation au repas organisés par la municipalité à l'occasion de la soirée dansante Camaret Fête le Vin comme suit. 17 € par adulte, 6 € par enfant de moins de 14 ans. Il est précisé que ces recettes seront perçues par la régie Fête et Animation et encaissées à l'article budgétaire 7062. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix, dans ce cas, qui est contre, qui s'abstient, donc Madame Seller et Monsieur Arcusé, adopté à la majorité. Dossier numéro 4. Marché d'assurance de la commune de Camaret-sur-Aigle, mission d'assistance. Par délibération numéro 2016, délib 059, du 16 juin 2016, le conseil municipal a approuvé le groupement de commandes constitué par la communauté de communes Aigouaise en Provence avec les communes membres ayant pour objet la souscription des contrats d'assurance dommages aux biens et risques annexes, responsabilité civile et risques annexes, protection juridique, flotte automobile et risques annexes. Afin d'être assisté dans cette démarche, une mission a été confiée au cabinet AFC Consultant, cabinet d'audit indépendant. Ce cabinet est missionné en vue d'organiser une mise en concurrence des assureurs dans le respect des dispositions légales des marchés publics pour le groupement de commandes défini. Certaines communes n'ayant pas fourni les informations nécessaires dans les délais impartis, la CCAOP n'a pas été en mesure de finaliser ce dossier dans les temps alors que le contrat d'assurance de la commune de Camaret-sur-Aigle arrive à échéance au 31 décembre 2016. Il a donc été décidé entre la CCAOP et les communes intéressées de reprendre la procédure de façon individualisée et hors du groupement. Pour ce faire, le cabinet AFC Consultant doit être désigné afin d'effectuer la mise en concurrence des assureurs pour le compte de notre commune, assurer la rédaction du dossier de consultation du marché et analyser les offres, conseiller la commune durant toute la procédure. Le marché sera décomposé en trois lots. Lot numéro 1, dommages aux biens et risques annexes. Lot numéro 2, responsabilité civile générale et protection juridique. Lot numéro 3, flotte automobile et risques annexes. Chacun des contrats sera souscrit pour une durée de 4 années à compter du 1er janvier 2017. Le cabinet AFC Consultants se rémunérera à hauteur de 80% des économies éventuellement réalisées par rapport au précédent contrat d'assurance, et ce uniquement sur la première année des contrats 2017. Si aucune économie n'est réalisée, la commune ne versera aucune rémunération à AFC Consultants. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, vu la réglementation des marchés publics, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention d'audit conseil et assistance à la passation des marchés d'assurance dommages aux biens et risques annexes, responsabilité civile et risques annexes, protection juridique, flotte automobile et risques annexes. Y a-t-il des questions? Monsieur Mengui? Alors attendez, je pense qu'on n'est pas appuyé.
Ah voilà, c'est là. Le fait qu'il n'y ait qu'une commune, enfin la commune de Camaret et la CCAOP, est-ce qu'on ne risque pas en fait d'avoir des prestations plus élevées? C'est un risque du fait. Est-ce qu'il ne serait pas, puisque ça arrive à échéance au 31 décembre, est-ce qu'on ne peut pas relancer les communes en question là, qui font partie du groupe point de commande, hein, c'est bien ça, et puis qui ont a priori ont pas répondu?
En fait, il y a plusieurs communes de l'intercommunalité qui ont suivi la même démarche que la nôtre. De mémoire, je crois qu'il y en a deux qui n'avaient pas fourni les documents, qui n'étaient pas prêtes pour suivre cette démarche, mais les autres suivent cette démarche-là. Donc le cabinet de consultants va faire en sorte que les tarifs soient équivalents à ceux qui auraient été ceux réalisés en groupement. Je ne sais pas si ça va être le cas. En tout cas, de toute façon, si jamais les résultats de cet appel d'offres n'étaient pas suffisamment intéressants, on aurait toujours loisir, parce qu'on sera dans les délais de rétractation de l'actuel contrat, de ne pas résilier le contrat actuel et de demander un avenant de 6 mois, effectivement, à l'actuel assureur de la commune qui est Groupama. Voilà. Donc on se garde éventuellement la possibilité de faire un avenant. Mais bon, vraisemblablement, le cabinet de consultants est plutôt optimiste quant aux tarifs qui pourront être pratiqués vu le marché actuel des assurances en la matière.
Merci. D'autres questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 5. Avenant au contrat d'assurance pour les risques statutaires. Rapporteur Antonio Muga.
En 2013, la commune de Camaret-sur-Aigle a demandé au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse de souscrire pour son compte, dans le cadre d'un groupement, un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l'article 26 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret numéro 86-552 du 14 mars 2006. Par délibération numéro 2013 délib 089 en date du 19 décembre 2013, la commune a accepté la proposition suivante. Compagnie d'assurance Generali, courtier gestionnaire Sofcap. Durée du contrat 4 ans à compter du 1er janvier 2014. Régime du contrat capitalisation. Préavis, adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 4 mois. À l'instar de la tendance générale, nationale, départementale, ainsi que celle rencontrée par les autres communes du groupement coordonné par le CDG 84, les sinistres liés à ce contrat ont augmenté de façon sensible avec un taux d'absentéisme global, maladie maladie ordinaire, maternité, longue maladie et maladie grave, accident du travail, ayant augmenté de 24% entre 2014 et 2015. Après négociation avec le centre de gestion 84, l'assureur de la commune propose une augmentation des taux de cotisation des assurances pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACRL de la façon suivante à compter du 1er janvier 2017. Garantie actuelle, décès, accident du travail et maladie imputable au service sans franchise, longue maladie et maladie longue durée sans franchise, maternité, paternité, adoption sans franchise, maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours par arrêt, avec un taux de 6,95. Nouvelle proposition, décès, accident du travail et maladie imputable au service sans franchise, longue maladie et maladie longue durée sans franchise, maternité, paternité, adoption sans franchise, maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours par arrêt, un taux de 8,34%. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 26, vu le décret numéro 86-552 du 14 mars 2006 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d'assurance souscrit par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux. Vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant ainsi que tout document s'y rapportant.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, eh bien, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 6. Bail de pêche avec l'association Pêche Passion de l'Aigle Camarétoise. Rapporteur, M. Jean-Michel Marlot.
Afin de renouveler son agrément en association agréée pour la pêche et de la protection du milieu aquatique, le président de l'association Pêche Passion de l'Aigle Camarétoise a sollicité de la commune le renouvellement de baux de pêche sur les berges lui appartenant. Les missions définies par l'article L234-4 du Code rural sont la surveillance de la pêche, la négociation et l'exploitation des droits de pêche au profit d'un grand nombre de pêcheurs, la gestion piscicole et le repeuplement, ainsi que la protection des espèces et des milieux aquatiques. La commune est en effet propriétaire de 16 035 mètres de berges de l'Aigle, 4 245 mètres entre les parcelles cadastrées, section A-1996 et A-2014, quartier Saplace, à l'ouest de la RD-43. 11 790 mètres à la parcelle cadastrée section AA1, quartier Saplace Est et à l'est de la RD43 et à l'ouest de l'ancienne voie départementale, ancien pont de l'Aigle. L'Aigle est un cours d'eau non domanial, à l'exception de son débouché en amont dans le Rhône sur 6 km, où la rivière appartient au domaine privé de l'État. Les propriétaires riverains ont droit de pêche. C'est un droit accessoire de leur droit de propriété sur le lit de la rivière et jusqu'au milieu des cours d'eau. Ils ne sont pas propriétaires de l'eau ou des poissons, mais seulement du lit. Cela implique d'assurer l'entretien des berges et éventuellement les travaux dans le lit, même du cours d'eau. Article L232-1 du Code rural. Aussi, les propriétaires peuvent confier cette obligation en contrepartie de laquelle les associations récupèrent le droit de pêche. La délibération N numéro 2011, délibéré-73, en date du 9 juin 2011, a autorisé la signature du bail de pêche avec l'association Pêche Passion de l'Aigle Camarétois pour une durée de 5 ans sur les parcelles situées quartier Sablas et cadastré section A numéro 1996, 1999, 1994, 2000, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014. Et section AA numéro 1, dans la perspective de sa transformation arrivée à terme, il convient de renouveler ce bail pour une durée de 5 ans. La superficie globale s'élève à 16 035 m². Vu le nouveau projet de bail, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la signature de renouvellement du bail de pêche pour une durée de 5 ans avec l'association Pêche Passion de l'Aigle Camarétoise.
Merci. Y a-t-il des questions ? Georges.
Des
mètres. Oui, moi je les mètres, oui, mètres carrés pour les parcelles et mètres pour les berges de l'Aigle. Merci, c'était une bonne question. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 7, Enedis, convention de servitude autorisant l'implantation de câbles souterrains. Rapporteur Christine Winkelmann.
Enedis gère en France le réseau de distribution d'électricité qui regroupe l'ensemble des lignes assurant l'acheminement de l'électricité vers les consommateurs. Considérant la nécessité de créer un branchement électrique pour Madame Castignera, domiciliée Combes-Ouest à Camaret-sur-Aigle, Enedis se propose à la commune de Camaret-sur-Aigle d'établir une convention de servitude. En effet, afin de mener à bien ce projet, il convient de procéder à la pose d'un câble basse tension souterraine sous 118 mètres sur la parcelle cadastrée section AK 234 située chemin des Combes, dont la commune de Camaret-sur-Aigle est propriétaire. Au titre de l'intégralité des ouvrages, une indemnité unique et forfaitaire de 20 euros sera versée à la commune propriétaire par Enedis. Vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de servitude autorisant Enedis à effectuer les travaux de création d'un branchement électrique pour Madame Castignera sur la parcelle cadastrée section AK 234, propriété de la commune de Camaret-sur-Aigle, d'accepter le versement d'une indemnité unique et forfaitaire à hauteur de 20 euros. Cette somme sera imputée au compte 7788.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Mengui.
Alors, c'est pas pour les 20 euros, hein. C'est plutôt, bon, il s'agit d'un raccordement sur une longueur de 118 mètres, chemin des Combes. Donc, c'est le chemin qui amène à l'école Frédéric Mistral.
Oui.
C'est bien ça ? Alors, bon, c'est un chemin qui est par endroit pas très large. Donc, mais j'espère que les travaux se feront en dehors des périodes scolaires, parce que ça va quand même être une tranchée a priori assez importante. Voilà. Donc, c'était cette remarque que je voulais faire. Deuxième chose, je suis étonné qu'il se raccorde à l'avenue Général de Gaulle pour remonter 118 mètres. Est-ce qu'ils ont étudié toutes les possibilités techniques, à savoir se raccorder sur les maisons qui sont un petit peu plus haut, c'est à peu près la même distance, mais je pense que c'est moins gênant. Alors, j'espère qu'ils ont étudié toutes les solutions, parce que passer 118 mètres de cap pour raccorder un riverain, pour un branchement, ça fait beaucoup. Voilà.
En effet, bon, en ce qui concerne votre première remarque, effectivement, nous allons tâcher de faire en sorte que ces travaux occasionnent le moins de gênes possible, en particulier en période scolaire, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, même peut-être un petit peu trop, puisque les riverains s'en plaignent suffisamment. Mais bon, malheureusement, il est difficile de faire autrement. Et en ce qui concerne le linéaire, qui paraît long, bah effectivement, c'est vrai que 118 mètres, c'est beaucoup, mais effectivement, on n'a pas trouvé d'autres moyens, sur le plan technique, plus avantageux. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Payalonga, Michel. Le micro, s'il vous plaît. Merci.
Oui, moi, je voulais savoir comment a été fixé le montant forfaitaire de 20 euros. Parce que c'est dérisoire compte tenu de la longueur.
Ah, c'est la proposition
d'Enedis sur la voie publique.
C'est la proposition d'Enedis. On n'a pas souhaité discuter parce que c'est quand même il y a un caractère de service public. On a accordé un permis pour ce petit lotissement. Quand on accorde un permis, on est censé fournir les réseaux. On l'a fait. C'est vrai qu'on n'a pas discuté le tarif avec Enedis.
La somme est dérisoire, mais effectivement, comme cela a été dit. Oui, mais il y a effectivement aussi, comme cela a été dit, un petit peu une obligation de service public. Et puis on va se rattraper sur la taxe d'aménagement. Voilà, y a-t-il d'autres remarques ou de questions? Madame Thibault.
S'il vous plaît, la remise en état de la voirie est assurée par le prestataire?
Alors frais, oui. Oui, oui. Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 8, redevance d'occupation du domaine public par France Télécom, rapporteur Christine Winkelmann.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des postes et des communications électroniques, pardon, et notamment les articles L41, L47, L48, à effet du 1er janvier 2016, relatifs aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes et sur les propriétés privées. Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine public, considérant que l'occupation du domaine public routier par les opérateurs de télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l'occupation, de la valeur locative et des avantages qu'en tire le permissionnaire. Vu l'article R2052 du Code des postes et des communications électroniques fixant le montant maximum des redevances déterminées en fonction de la durée de l'occupation des avantages qu'en tirent les permissionnaires et de la valeur locative de l'emplacement occupé. Monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d'occupation du domaine public routier dû par les opérateurs de télécommunications. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'application des tarifs maxima prévus par le décret précisé pour la redevance d'occupation du domaine public routier dû par les opérateurs de télécommunications, à savoir pour l'année 2016. 51,74 € par kilomètre et par artère en souterrain. 38,81 € par kilomètre et par artère en aérien. 25,87 € par mètre carré au sol pour les installations d'autres que les stations radioélectriques, cabines, notamment armoires. De revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'indice général relatif aux travaux publics. D'approuver l'inscription annuelle de cette recette au compte 70 323. D'autoriser le renouvellement de ces redevances en établissant un état déclaratif annuel ainsi qu'un titre de recette.
Merci. Y a-t-il des questions? Non. Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et enfin, dernier rapport, motion relative à l'accueil des migrants à Camaret-sur-Aigue. Dans le contexte du démantèlement de ce qui est appelé, même par les plus hautes autorités, la jungle de Calais, ainsi que de l'accueil par la France de près de 30 000 migrants sur 2 ans, selon le plan de relocalisation imposé par la Commission européenne, le ministère de l'Intérieur prépare un schéma visant à disséminer, sans concertation, près de 12 000 migrants dans toutes les régions de France, exception faite pour l'Île-de-France et pour la Corse. Déjà, des villes et villages ont été désignés volontaires par certaines préfectures ou sont sur le point de l'être. Cette politique de dissémination de la dite jungle de Calais multipliera les problèmes au lieu de les résoudre. Cette réquisition, si elle devait toucher notre commune, renforcera le communautarisme et les difficultés sociales à Camaret-sur-Aigle, qui n'en a pas besoin. Considérant que l'accueil de migrants génère un coût financier et social que nos communes en général, et Camaret-sur-Aigle en particulier, soumises à la baisse des dotations de l'État, ne peuvent plus supporter sans augmenter la fiscalité locale, considérant qu'il est impensable de demander aux contribuables locaux, déjà durement éprouvés par la crise économique et sociale, de contribuer financièrement à l'accueil de migrants sur notre territoire, considérant que l'installation de camps de migrants situés à proximité des cœurs de ville engendre des tensions avec les habitants, nuit à l'ordre public, asphyxie l'économie locale et menace l'équilibre de nos communes, considérant que les corridors migratoires qui sont empruntés par des migrants permettent à des djihadistes de pénétrer sur le territoire de la République en vue de commettre des attentats contre nos populations et qu'il est de notoriété publique que certains sont infiltrés dans les groupes de migrants disséminés dans les centres d'accueil et d'orientation, considérant que l'immigration massive nourrit les revendications communautaristes contraires à la justice et à l'équité, il est demandé au conseil municipal de s'opposer, en l'état actuel des choses, à l'accueil de migrants sur le territoire de la commune de Camaret-sur-Aigle. Madame Thibault.
Bien. Donc, à la lecture de cette motion, donc, nous avons une déclaration à faire. Donc, le groupe Ensemble pour Camaret dénonce votre motion relative à l'accueil des réfugiés proposée au vote de ce conseil municipal, donc de ce jeudi 20 octobre 2016, que, à visée électoraliste et co-orchestrée par le Front National, dont vous êtes le représentant local. Ce texte accumule des contre-vérités. Vous évoquez une hypothétique réquisition alors que, selon vos propres termes, Camaret n'est pas sollicité aujourd'hui. L'État ne demande pas aux communes de créer des camps de migrants à proximité des cœurs de ville, comme vous l'affirmez. Vous parlez d'augmentation des impôts locaux, mais de combien de personnes parlons-nous ? À l'échelle nationale, 30 000 personnes sur 2 ans à répartir sur 36 000 communes. Vous évoquez la justice et l'équité, mais vous voulez interdire l'asile à une ou deux familles. Nous saluons et félicitons les communes dont les maires ont répondu favorablement à cet accueil et nous rappelons que le préambule de la Constitution de 1946, confirmée par celle de 1958, proclame « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. » Le contexte économique actuel est certes difficile, nous ne l'ignorons pas. Le rôle des élus est cependant d'ouvrir des perspectives et non d'attiser des peurs. Cette motion est en désaccord total avec nos convictions humanistes et républicaines. C'est pourquoi la réponse à cette motion du groupe Ensemble pour Camaret sera un vote contre. Il faut, derrière les mots migrants et réfugiés, il y a des hommes, des femmes et des enfants fuyant la guerre. Enfin, puisque vous avez cru bon de placer la commune sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus, nous soumettons à votre conscience cet extrait de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Éloignez-vous de moi, maudits, car j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Chaque fois que vous ne m'avez rien fait pour venir en aide, ne serait-ce qu'à un seul de ces petits, C'est à moi que vous n'avez rien fait. Voilà, c'est tout ce que nous avions à dire.
Je ne suis pas très étonné de votre réaction, donc je note votre refus de voter cette motion. Et je souhaite y répondre point par point, à moins que d'autres élus de l'opposition veuillent également s'exprimer. Monsieur Payalonga.
Mais moi, à titre personnel, je ne voterai pas cette motion, parce qu'étant moi-même un fils de migrant, je ne peux pas voter ce genre de choses.
Je crois qu'il ne s'agit pas de tout mélanger. Bon, donc je réponds à la...
Moi, je suis fils de migrant et je voterai la motion.
Je réponds point par point à Madame Thibault. Alors, vous avez dit que nous avions énoncé un certain nombre de contre-vérités au travers de cette motion, en particulier que Camaret n'est pas sollicité. Alors là, je réponds assez facilement. Hein. Pour l'instant, Camaret n'est pas sollicité. Nous ne sommes qu'au début d'un processus de démantèlement de la jungle de Calais, de dissémination sur tout le territoire des migrants de Calais, mais nous savons qu'il y en aura d'autres, en France, bien entendu. Et surtout, je note que depuis peu, nous savons que la commune de Dupontet et celle de Grandbois dans le Luberon, on vient d'apprendre qu'elles sont impactées. Donc si effectivement le processus pour l'instant ne concerne pas Camaret, ce n'est que malheureusement, je le crains, une situation qui pourrait n'être que provisoire, qui ne pourrait être que provisoire. Donc c'est à titre préventif que nous manifestons un désaccord à titre symbolique, en espérant qu'effectivement les services de l'État ne désignent pas Camaret. Vous affirmez ensuite qu'il ne faut pas parler de camp. Bon, ben écoutez, c'est un petit peu péremptoire aussi de votre part de l'affirmer. À Calais, on a commencé par quelques personnes et puis c'est devenu un camp, un véritable camp. Le long de la frontière italienne, idem. Et les populations alentour en savent quelque chose. Donc, effectivement, on commence à ouvrir le robinet, et puis ensuite, on ne sait plus l'arrêter, et les populations s'accumulent dans des conditions d'hygiène, de vie, tout simplement, absolument indignes. Absolument indignes. Donc, vous parlez d'électoralisme, mais je crois que l'électoralisme ne vient pas forcément de nous, mais de ceux qui exploitent la misère de ces pauvres gens. Notamment à des fins électorales. Hein, on l'a vu dans le passé. Vous mettez en cause notre référence aux impôts locaux. Eh bien, écoutez, voilà, hein, moi, je dénonce ce scandale qui consiste pour l'État à se décharger sur les collectivités locales d'un problème et à répartir sur toutes sur une partie des communes françaises cette nouvelle charge. Vous dites qu'il n'y aura que quelques familles, on n'en sait rien, on ne sait pas. Combien il va y en avoir à Grandbois, on ne sait pas non plus, au Poté non plus, on ne le sait pas, comme de la même façon qu'il n'avait été pas prévu que Calais accueille au bout du processus une dizaine de milliers de migrants. Au départ, il n'y en avait que quelques centaines. Et là, demander à la mairie de Calais combien cela a coûté à son budget. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre que le droit d'asile était garanti par la Constitution? Alors là, je suis d'accord avec vous, mais à condition que ce droit d'asile ne soit pas dévoyé. Car il a été quand même suffisamment démontré que malheureusement dans ces migrants, et il y en a certains qui effectivement fuient la guerre et la violence, mais il y en a beaucoup malheureusement qui ne sont que des immigrés alimentaires et qui viennent en France sous couvert du droit d'asile pour en fait récupérer un certain nombre d'allocations. Donc vous dites ce ne sont que des hommes, des femmes, des enfants qui fuient la guerre. Eh bien non, encore une fois, on y a même été démontré que parmi les pseudo-migrants se sont trouvés certains auteurs des attentats sanglants dont nous avons été les victimes ces derniers mois, voire ces dernières semaines. Il y avait bien de vrais djihadistes dans les faux migrants qui sont arrivés en France et en Europe. Il n'y a pas que des femmes et des enfants et des hommes qui fuient la guerre. Il y a beaucoup d'immigrants alimentaires et il y a beaucoup d'islamistes, djihadistes. Et enfin, vous croyez me mettre en difficulté en citant l'évangile selon saint Matthieu, que vous avez interprété à votre manière. Mais moi, je me fie justement ce qui concerne la religion effectivement à laquelle je souscris à deux papes, Jean-Paul II et le pape Benoît XVI. Donc le pape Benoît XVI a repris un message du pape Jean-Paul II prononcé pour la 97e journée mondiale du migrant et du réfugié en 2010. Vous voyez, c'est pas vieux. Qu'ont dit Jean-Paul II et Benoît XVI? Ouvrez les guillemets. Les États ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre leurs frontières en garantissant toujours le respect dû à la dignité de la personne humaine. En outre, les immigrés ont le devoir de s'intégrer dans le pays d'accueil en respectant ses lois et l'identité nationale. Il faudra alors concilier l'accueil qui est dû à tous les êtres humains, spécialement aux indigents, avec l'évaluation des conditions indispensables à une vie digne et pacifique pour les habitants originaires du pays et pour ceux qui viennent le rejoindre. Voilà, je crois que ce message est assez clair et j'y souscris pleinement et j'en fais ma réponse à votre allusion à l'évangile selon saint Matthieu. Voilà, donc moi je pense que il n'y a plus grand chose à dire, à moins que vous vouliez répondre, parce que de toute façon nous sommes dans une assemblée démocratique et qui dit assemblée démocratique dit débat. Alors monsieur Mengui, si vous voulez la parole, vous l'avez.
Merci. On a écouté attentivement ce que vous venez de nous dire, mais ce qui se passe, c'est que vous êtes dans l'excès et vous êtes dans la rhétorique de votre parti qui actuellement développe dans tous les conseils municipaux et dès que l'occasion se présente ce type d'argument. Voilà, donc on ne dit pas que ce n'est pas une difficulté pour les communes d'accueillir, bien qu'elles ne les accueillent pas directement, mais dans des structures qui sont souvent à caractère de loisirs sociaux ou de vacances, donc c'est pas les communes directement qui accueillent. Et puis la réponse de Benoît XVI, c'est pas de dire je n'accueille pas de réfugiés, c'est pas ça. Et vous, ce que vous nous dites, c'est je n'accueille pas de réfugiés, ce n'est pas ce que dit le pape en l'occurrence.
Benoît XVI dit que chaque État a le droit moral de réguler l'immigration, en particulier dans notre pays. Je pense que ce droit doit être pris. Et Benoît XVI insiste aussi sur la dignité de l'accueil qui doit être fait aux réfugiés ou aux migrants. Moi, je rappellerai un chiffre qui est là encore incontestable, puisqu'il vient de l'INSEE. L'INSEE qui a relevé qu'au cours de l'année 2013, 235 000 immigrés sont arrivés en France et 95 000 l'ont quitté, ce qui fait un solde migratoire positif de 140 000 immigrés arrivés en France. Donc c'est une source INSEE qui a été reprise par Vaucluse Matin le 13 octobre 2015. Donc, en fait, le problème ne concerne pas, comme vous essayez de nous le faire croire, ne se résume pas à quelques familles, mais il s'agit bien pour la France et pour les contribuables français d'essayer d'accueillir dans des conditions dignes des dizaines, voire des centaines de milliers d'immigrés chaque année. Ça, c'est l'INSEE qui le dit. Alors, je vous pose la question, monsieur Mengui, est-ce que cette intégration se fait dans de bonnes conditions? Je pense que vous n'aurez pas quand même l'indécence de dire que oui, parce que là, quand même, vous seriez un petit peu à côté de... Non, mais attendez, excusez-moi, je termine après, je vous repasse la parole tant que vous le souhaiterez. Donc, cette intégration ne se fait absolument pas. Absolument pas, et de plus en plus, les Français s'en rendent compte. Il n'y a guère que les politiques, et encore, si on lit, si on va en librairie et qu'on l'achète et qu'on lit attentivement un ouvrage qui est devenu très célèbre et qui concerne le plus important personnage de l'État, qui a été soutenu d'ailleurs par vous-même et par Madame Thibault, un certain François Hollande, on lit que en France, il y a trop d'immigrés. dixit François Hollande à certains journalistes du Monde. Donc moi, de ce côté-là, je rejoins François Hollande, qui le dit en off, bien sûr, qui le dit à quelques journalistes, puis qui, aux Français, il dit rigoureusement l'inverse. Mais ça, c'est un petit peu coutumier de M. Hollande et d'une grande partie de la classe politique qui, malheureusement, nous a précipité dans une situation que l'on a de plus en plus de mal à gérer. Demandez aux policiers, demandez aux enseignants, demandez aux chauffeurs de bus, et j'en passe, et des meilleurs, hein, demandez aux médecins ou aux infirmières, aux agents hospitaliers. Voilà. Tout ceci se passe de moins en moins bien, de plus en plus mal, avec de plus en plus de violence. Et pour en revenir à ce qu'a dit Michel Payet-Longa, notre éminent collègue, cette intégration ne se fait pas et ne se passe absolument pas comme les choses se sont passées il y a quelques décennies, voire au siècle dernier, quand nous avons reçu effectivement beaucoup d'immigrés en provenance d'Espagne, d'Italie, du Portugal ou de Pologne par exemple. Il y a eu des problèmes effectivement au début, mais ensuite les choses sont rentrées dans l'ordre. Ceux qui ne se sont pas intégrés sont retournés au pays et les autres maintenant ne posent plus aucun problème. Par contre, il y a une vague d'immigration depuis les années 70-80 du siècle dernier qui ne s'intègre absolument pas et dont beaucoup ne manifestent même pas le désir de s'intégrer. Eh bien écoutez, je mets aux voix qui est contre cette motion, le groupe socialiste ainsi que Michel Payet-Longa, qui s'abstient. Qui est pour ? Je vous remercie. La motion est adoptée à la forte majorité. Est-ce qu'il y a des questions diverses ? D'autres questions diverses ? Il n'y en a pas. Alors je vous annonce le prochain conseil municipal le 13 décembre. Et je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie pour la courtoisie et la bonne tenue de nos débats. Merci.